La Bible, parfum de scandale, une émission produite par Radio FM+ et présentée par Babette Soulier-Laporte et Ingrid Pratt.
Bonjour chers auditeurs de Radio FM+, bonjour Ingrid.
Salut tout le monde.
Pasteur de l'EPUMA. Église protestante unie de Montpellier, alentour, je crois.
Et alentour,
très bien. Eh bien, nous voilà de retour pour une émission avec des sujets toujours aussi simples, on va dire, que personne, une question que personne ne se pose, je pense.
Jamais.
Et qui, tout simplement, se décline comme « Y a-t-il une vie après la mort ?»
Voilà, on a rien vraiment
peur de rien. Non. Oui, tout à fait, peur de rien. Bon, il y a de multiples textes qu'on aurait pu choisir, que tu aurais pu choisir, Ingrid. Et tu as finalement plutôt préféré Luc 23, 32, 49.
Oui.
Voilà, c'est lorsque le Christ, en fait, est sur, ou Jésus pour les non-croyants, se tourne vers le bon malandrin, celui qui dit « oui, tu es vraiment le Fils de Dieu » et qui lui répond « aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». J'avais lu qu'il y avait peut-être une histoire de virgule, de problème de virgule qui n'était pas tout à fait au bon endroit. Enfin, je ne sais pas, ça serait « et tu seras moi dans le paradis ». Enfin, aujourd'hui n'était pas forcément, mais bon, tu vas nous dire.
Ah, mais aujourd'hui, il est fondamental.
Voilà, donc on va le garder. Donc, en fait, pour faire juste un petit contexte quand même qui explique ce texte, enfin, qui finalement va nous servir de base aux questions suivantes. Jésus est amené devant Pilate et Pilate ne le croit pas coupable. Est-ce qu'il est roi des Juifs? Il ne se revendique pas comme roi des Juifs. Il dit « tu dis que je le suis ». Et donc Pilate l'envoie à Hérode. Bon, Hérode, ils n'étaient pas tellement copains tous les deux. Et Jésus est devant Hérode qui est très content de le voir. Il se dit « chic, il va me faire un miracle.
Hein,
ça va être super. » Il lui pose des questions. Il n'a aucune réponse lui en revanche. Il est furieux, donc on le revêt de son habit écarlate. Il le renvoie à Pilate et Pilate et Hérode deviennent copains comme tout ce jour-là.
Super.
Voilà, un petit peu contre Jésus, on va dire. Donc, finalement, ni Hérode ni moi ne le trouvons coupable.
Ni moi non plus.
Voilà. Et donc, le peuple demande, mais relâchez Barabbas et condamnez Jésus. On dit le peuple, quelquefois on dit les magistrats, enfin bon, voilà. Pilate répète qu'il n'a rien fait, qu'il soit digne de mort, je le relâcherai. Une troisième fois, encore une fois le chiffre 3, bien sûr, Pilate dit, Jésus n'est pas coupable. Voilà, Simon de Cyrène portera sa croix. Et Jésus est suivi par le peuple à qui il dit, lamentez-vous, vous allez être punis. Punis de ce qui m'arrive, sans doute. Voilà, et donc lorsqu'il est sur la croix et que l'un des deux malandrins, le premier malandrin, lui dit bah vas-y, sauve-toi, montre que tu es le Fils de Dieu, fais quelque chose, quoi. Hein. Reste pas comme ça, comme une bûche, si je peux me permettre. Excuse-moi, c'était pas volontaire. Et donc l'autre qui confesse sa foi en Jésus comme Fils de Dieu, donc Jésus lui répond aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ouais. Donc il y aurait un au-delà de la vie telle que nous la connaissons par nos cinq sens. On vient d'en trouver un sixième d'ailleurs, hein, et un septième même, à distance, oui, où on arrive à, comme les oiseaux, en fait, certains oiseaux, on arrive à sentir sous le sable des choses enfouies. Voilà. Et ça a été ça, scientifiquement conduit comme étude. Bref, revenons à notre vie
paradis.
Éternelle. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait une vie au-delà de la vie, une vie éternelle et un paradis, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et alors, l'enfer,
Il est pour qui?
Voilà. Donc,
c'est un vaste programme. Alors,
oui.
Pour commencer ce vaste programme, eh bien, je propose qu'on entende ce texte de l'évangile de Luc. On conduisait en même temps deux autres, des malfaiteurs, qu'on allait exécuter avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il le tournait en dérision en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vin aigre en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription « Cet homme est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Mais l'autre le rabroua en disant « N'as-tu donc aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal ». et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà la sixième heure environ. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil avait disparu et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. Voyant ce qui était arrivé, le centurion glorifia Dieu en disant « Cet homme était réellement injuste. » Et les foules qui s'étaient rassemblées pour assister à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui le connaissaient et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait.
Ouh. Oui, voilà. Donc c'est un drôle de texte quand même.
Ouais.
Hein, pour parler de...
De la vie éternelle, et de la vie après la vie. Oui, mais en fait, c'est vraiment la question des bons larrons qui nous a...
Qui est intéressant. Ouais, oui, voilà. Oui. Moi, j'ai une première question, justement, qui, comme tu as dit, oulala, hein, à la fin de la lecture du texte, pourtant, je pense que tu le connais un peu.
Ouais.
C'est pas la première fois que tu le lis. Bon, ma première question, c'est comment peut-on croire à la vie après la mort, juste après la croix, justement, où la mort semble l'emporter sur la vie? Pourquoi Jésus ne fait pas un miracle? Effectivement, Hérode, il est prêt à le croire. Le peuple, ouais, il est prêt à y croire pour se sauver. Ça serait parfait, quoi. Hein. D'ailleurs,
génial.
Voilà, ça rappelle un peu le film de Scorsese, qui est fondé sur le roman de Kazantzakis, La dernière tentation du Christ. Le Christ, il descend de sa croix. Ouais. Et tout le monde fait « Ah !» Dans n'importe quelle, je pense, salle de cinéma où c'était, ça fait « Ah !» Je voudrais très, très bien. Bon, mais... Effectivement, est-ce qu'on est là pour épater la galerie? Est-ce que c'est pas le diable qui aurait gagné si on croit au diable? Et donc, effectivement, l'islam, par exemple, refusera cette mort, le docétisme aussi. Ouais. Parce que la croix, c'est quand même la pire des infamies pour un messie. Quel paradoxe! C'était infamant comme genre de punition, en dehors du fait que c'était relativement douloureux et mortel. Mais bon, c'est vraiment... Et d'ailleurs, j'ai appris à ce propos que les premiers chrétiens ne portent pas la croix.
Ouais.
Parce que c'est finalement quelque chose d'un peu... pendant 4 siècles,
ouais,
ce qui est assez contre-intuitif. Voilà.
Et
les protestants, nous ne portons pas une croix sur laquelle reste le corps du Christ, justement.
Oui, moi, j'ai souvent des gens qui me disaient, mais tu te rends compte, si le Christ était mort noyé, tu aurais un bocal autour du cou.
Ah oui, voilà, c'est effectivement, voilà. c'est une façon
en fait,
de...
un instrument de torture,
c'est
à
un
la
instrument
base.
De torture, tout à fait.
Donc, on ne montre pas l'instrument de torture.
Non. Et puis pour nous, il n'est plus sur cette croix,
non,
justement.
Non.
Dieu merci, si je peux dire pour une fois.
Donc alors,
voilà, comment croire à la
comment
vie,
croire
après...
En oui, la vie oui. après la mort à partir d'un texte où tout oui. semble mais perdu.
Oui.
Parce que effectivement, c'est un texte qui présente l'accomplissement radical de la mort du Messie, en fait. Il est dans l'abandon, dans la souffrance, dans la dérision, dans les ténèbres, dans la séparation. Et finalement, tout concourt à montrer la victoire de la mort comme quelque chose d'absolu. Et pourtant, il y a des dans ce passage, je trouve que Luc qui écrit présente des petites choses qui sont, je dirais, des germes de la résurrection, des signes qui vont prendre sens, mais après Pâques, mais qui déjà, quand on le lit, oriente le lecteur vers la vie. Alors d'abord, ces petits signes-là, c'est que la mort de Jésus est présentée comme un acte souverain et pas une fatalité subie. Chez Luc, Jésus meurt en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains.
» Ce que tu appelles un acte souverain, c'est-à-dire délibéré ou...
Oui, il y a... Oui, quelque chose qui va dépasser le
d'accord.
Qui va dépasser la fatalité.
Oui.
Alors, quand Jésus dit ça, là, quand il dit cette phrase, en fait, on pourrait entendre un cri de désespoir. Mais moi, ce que j'entends, c'est vraiment un acte de confiance, en fait. Il cite le psaume 31.
Ah, d'accord.
Et en soi, ce qu'il dit là, à travers ces mots-là, c'est que sa mort... Et de l'ordre du passage et non pas de la fin. Ça, c'est le premier, le pre- premier petit signe.
Ça reprend Pessah d'ailleurs, Pessah, la Pâque juive, qui est le passage aussi.
Passage. Et puisque celui qu'on va appeler le bon larron, ce qui il était bon, meilleur que l'autre, on n'en sait rien. Allez, disons qu'il est bon, celui qui a choisi la meilleure part, on va dire. Il reçoit une promesse immédiatement, là, comme ça, qui est orientée vers la vie. Et Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Et c'est vraiment, on a une scène qui est tragique. Et cet aujourd'hui, pour moi, il est important, mais il est important pour Luc aussi, parce qu'il va beaucoup l'employer dans son évangile.
D'accord.
Et c'est un aujourd'hui qui finalement ouvre vers un au-delà qui est instantané. C'est pas, ça ne va pas venir après une longue attente, ce qu'on appelle l'attente eschatologique.
Oui.
Au bout du bout du bout, on ne sait pas quel
les
bout
fins
d'ailleurs.
Dernières, les fameuses fins dernières d'eschatologie.
Mais c'est là, maintenant.
Ouais.
Là.
C'est un présent.
Aujourd'hui, c'est un présent.
Mm-hmm.
Ça, c'est, et quelque part, ça induit que la mort, ce n'est pas, pas la fin, mais une ouverture à la communion avec Dieu à ce moment-là. Et puis, on a plein de signes dans ce texte, et notamment des signes cosmiques, hein, avec les ténèbres qui sont là pendant 3 heures, le voile du temple qui se déchire. Tout ça dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se retourner. Et on a souvent dit que ces signes annonçaient la colère de Dieu. Mais on peut, je dirais aussi, lire que c'est la fin d'un monde et l'ouverture à quelque chose de nouveau. Moi, j'aime bien cette idée, en fait. C'est que, voilà, c'est quelque part quelque chose qui dit que la mort de Jésus, ce n'est pas un échec de Dieu, mais c'est Dieu qui perce à travers la mort, quoi.
Oui.
Il y a des choses qui...
C'est une nouvelle alliance, justement.
C'est une nouvelle alliance avec un nouveau truc qui est en train d'émerger. Et puis après, on a le centurion qui voit déjà autre chose, parce qu'il est là devant, bah, c'est un centurion, donc il n'a pas eu de catéchisme, hein, mais il est là comme ça devant la croix, il dit « celui-ci était un juste » ou « celui-ci était vraiment le fils de Dieu » selon certains manuscrits. Et en fait, ce qu'il perçoit là dans la mort de Jésus, c'est quelque chose de vrai. Et en fait, ce moment-là, la croix devient paradoxalement un lieu de révélation.
Oui. C'est ça qui est très étonnant, que c'est dans ces ténèbres qu'il y a cette épiphanie. C'est toujours cette espèce de structure paradoxale de toute la Bible.
Complètement.
Hein, qui
vraiment... Et ça traverse
encore plus
vraiment tous les évangiles. Ça.
Oui, c'est ça. Encore plus du Second Testament que du premier. Ouais. Oui, tout à fait. Les choses sont plus...
Alors, pourquoi Jésus ne fait pas un miracle pour se sauver? Parce que ça nous intéresse aussi. On se dit, c'est quand même, il est bête, quoi.
Oui, ça nous aiderait à quoi plus facilement. On se dirait, nous aussi, c'est chouette. Voilà.
En fait, c'est aussi chez Luc qu'on a l'histoire de la tentation de Jésus au désert.
Au désert, oui.
Où, dès le début de l'évangile de Luc, donc Jésus est amené dans le désert, et là, il est tenté par le diable.
Tout à fait.
Et le diable lui dit, entre autres choses, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, et tu ne mourras pas, quoi. »
Bien sûr.
En fait.
Non.
Donc, prouve.
Oui, c'est ça.
Prouve que tu es le Fils de Dieu par un miracle spectaculaire. Et finalement, ce qu'on voit devant la croix, ce qui se passe, parce que dans ce texte, ce récit, c'est vraiment flagrant, hein, les autorités disent exactement la même chose. Mais qu'ils descendent de la croix, et alors on va croire. C'est exactement la même voie que celle du tentateur dans le désert.
Dans le désert,
et finalement, descendre de la croix, ça serait céder à la logique de la puissance mondaine. Et quelque part, dans la dernière tentation du Christ, l'idée qui est explorée, elle est géniale parce que finalement, descendre de la croix, c'est accepter un rôle de gourou charismatique.
Tout à fait.
Et c'est renoncer au salut.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, finalement, le diable gagne.
Oui.
S'il descend de la croix.
Bien sûr.
Il va gagner.
Bien sûr.
Voilà.
Oui, donc ça, c'est vrai, c'est une première...
En fait, voilà, ce qui est super important, c'est de se dire ça, c'est que... Dieu ne s'impose pas par le spectaculaire.
Non.
Parce que s'il s'imposait par le spectaculaire, il violerait la liberté humaine.
Oui, tout à fait.
Et ce qu'on va voir à travers ce texte, c'est que la foi, elle naît d'une rencontre et pas d'une preuve qui va venir tout écrabouiller.
Non. Voilà. Il faut que le libre arbitre
de chacun
soit. Ouais, oui. De chacun. Il faut pouvoir être un croyant pour que le fidèle ait une vraie valeur.
Enfin, exactement.
Je ne me souviens plus de la citation exacte, mais c'est vraiment ça.
C'est ça.
Ouais. Alors, j'ai une deuxième question qui. Bon, parce que c'est histoire de paradis quand même, hein. Paradisos, le jardin. Est-ce que, selon le mal ou le bien qu'on fait dans sa vie, finalement, est-ce qu'il y a un rapport avec l'obtention de la vie éternelle ? Est-ce que, parce que justement, comme tu le disais, ce sont des malfaiteurs, puisqu'évidemment, c'est un supplice qui n'est, c'est une torture et une punition, les deux en même temps, qui n'est réservée qu'au pire des malfaiteurs. Voilà. Donc, cette présence, en fait, pose, je trouve, une question que, est-ce que seuls les justes iront au paradis ou on ira tous au paradis.
Ah, on aimerait tellement, hein.
Voilà, tout à fait. Et ces deux réactions contraires, en fait, sont vraiment contraires des deux malfaiteurs vis-à-vis de la vie éternelle. Ouais. Qu'est-ce que ça représente, ces deux réactions? Voilà, pourquoi? Et comment tu définirais le mal? Parce qu'on a parlé du diable, on a parlé du mal. Ouais. Est-ce que c'est le mal avec un grand M? Voilà, le diable qui tente le Christ au désert. Est-ce que c'est aussi toute cette espèce de puissance? Enfin, moi, je sens comme ça, c'est peut-être pas du tout théologiquement correct, une espèce de puissance mortifère aussi qui sont à l'œuvre dans notre vie quotidienne. Voilà. Ça fait beaucoup pour une même question, mais voilà. Bon, est-ce que le mal et le bien, sur le rapport avec...
Alors, je crois que vraiment dans l'Évangile, la vie éternelle n'est jamais une récompense morale. Ça, c'est...
Ce qui est très, très à contre-courant de ce que beaucoup de...
Mais tout le monde croit ça
et
argumente aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui argumentent là-dessus et qui...
De façon de canaliser les ouailles.
Oui, il faut croire. Hein,
voilà.
Et alors que Jésus, à aucun moment, n'a dit « Tu as bien vécu, tu as fait tout ce qui était bien, juste, donc tu iras au paradis. » C'est pas...
Mais ce lien de cause à effet n'est jamais exprimé dans l'Évangile.
Jamais,
ça c'est vrai.
Jamais. Et le christianisme n'est pas une religion du mérite moral. Vraiment.
Non.
Et là, je veux dire, s'il y a un truc à effacer de vos tablettes, c'est bien ça.
Ouais,
voilà.
C'est sûr.
C'est une... Au contraire, hein, c'est vraiment... une relation qui est reçue et accueillie. Le bon larron est un criminel. Sinon, il n'aurait pas été
l'autre.
Comme
oui,
l'autre.
Tout
il n'aurait pas été condamné. Ce n'est pas un homme vertueux. Ce qui, c'est
il est
génial.
Il est même l'inverse.
Il est même tout l'inverse. Oui. Donc c'est très chouette qu'il soit là à côté de Jésus. Pour dire ça.
D'ailleurs,
c'est
Jésus
le meilleur
est toujours
exemple,
Jésus
en fait.
Est toujours allé vers des prostituées, des exclus, des gens qui
Et ce qui est génial, c'est que là, on voit très clairement qu'il n'est pas sauvé ni par sa morale, ni par son passé, mais quelque part par la reconnaissance de ce qu'il est, la reconnaissance de l'innocence de Jésus et sa confiance.
Oui.
Ce qui lui dit, Jésus, souviens-toi de moi. Voilà. C'est, et ce qui me fait dire que la vie éternelle naît d'une rencontre. C'est pas parce qu'on a un CV éthique irréprochable qu'on accède à la vie éternelle. C'est une rencontre. Le mauvais larron est aussi un criminel, mais il refuse.
Il refuse la rencontre.
Il refuse de se reconnaître pécheur. Il refuse de reconnaître Jésus. Et il refuse d'entrer en relation. Et ça dit déjà beaucoup de choses de ça. Ce récit de Luc, finalement, refuse l'idée que seuls les justes vont au paradis. Donc, si Dieu donne la vie éternelle sur la base du mérite, eh bien, aucun des deux n'y aurait droit.
Oui. Dieu n'est pas comptable.
Non. Ça signifie vraiment que l'amour de Dieu peut atteindre même les plus perdus. Personne n'est jamais trop loin. Mais ça signifie une chose super importante, c'est que Dieu ne force jamais personne.
Oui.
Le mauvais larron n'est pas un damné. Je dirais qu'il représente la fermeture, la dérision, la suffisance. Et le bon larron représente la vérité sur soi, en fait,
oui,
sur
oui.
L'ouverture, la demande, la confiance.
Oui. Est-ce que tu dirais que le mauvais larron, c'est l'orgueil, cette espèce d'hubris humain ?
Complètement.
Voilà. Qui pense se suffire à lui-même.
Il est dans la logique du ressentiment. Il dit sauve-toi toi-même et nous avec.
Oui, c'est ça.
Voilà. C'est exactement la même tentation que celle des chefs,
oui.
Des soldats. Hein. Il dit
fait.
Exactement
oui,
la même chose. Oui. Quoi. Et c'est tout ce qui est dit là dans cette tentation, c'est la logique du calcul, l'exigence de preuve, le refus de reconnaître sa propre responsabilité, le désir d'un miracle sans rien. C'est celui qui dit finalement que Dieu prouve d'abord et puis moi je croirai ensuite. Quoi. C'est lui qui représente une grande part de l'humanité.
Oui, effectivement.
Contrairement au deuxième. Là.
Au deuxième,
voilà.
Tout à fait. Bon, on va faire une très brève pause musicale.
On ira tous au paradis, même moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira. Toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, on ira tous au paradis.
Donc Ingrid, je te pose la question, toi, en tant que pasteur de l'Église réformée, allons-nous tous aller au paradis ?
C'est la question à 100 balles.
Au moins,
c'est
pas cher encore.
Alors, je crois que la question qu'il faut poser, c'est qui a droit à aller au paradis ? Parce qu'on se pose souvent cette question, c'est qui a droit à aller au paradis ? Est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est que certains ? Moi, je rebondirai sur ce mot-là, aujourd'hui, parce que c'est là, aujourd'hui, que ça commence, en fait.
Oui. C'est... Et pas après la mort physique du corps. Non.
Voilà. Aujourd'hui, qui s'ouvre à la relation ?
Oui.
C'est exact. Pour moi, la question de la vie éternelle, elle est là. C'est aujourd'hui, est-ce que tu as envie de t'ouvrir à une relation ? Parce que le salut, il est pour tous.
Mais pour tous ceux qui s'ouvrent.
Mais pour tous ceux qui s'ouvrent.
Voilà.
Parce qu'on peut, on peut bien, on peut vraiment se fermer à ça. Et il y en a plein qui se ferment à ça. Mais on ne choisit pas, quelque part.
Oui.
C'est la grâce qui permet de s'ouvrir à... Tout d'un coup, il se passe un truc. C'est de l'ordre de l'expérience, en fait.
Tout à fait. Et souvent, l'expérience émotionnelle plutôt qu'intellectuelle.
Complètement.
C'est pour ça que c'est difficile, cette histoire de théologie de la grâce, donc qui est la nôtre. Hein.
Oui.
C'est-à-dire, ça fait un petit peu aléatoire. Toi oui, toi non, etc.
Ouais.
Et puis, moi, ce que je sens souvent dans les incroyants avec qui nous parlons souvent, parce qu'ils nous parlent de notre foi, ils en parlent même plus souvent que nous leur en parlons. Parce que moi, j'essaie de... Enfin, je parle sans parler beaucoup, mais ça intrigue les gens. Hein, voilà. Et souvent, on sent une peur de la mort, tout simplement, et des grandes questions de la vie qui n'ont pas du tout envie d'aborder.
Oui.
Moi, c'est ce que je ressens. Après, peut-être trop généraliste, parce qu'il y en a qui écrivent des bouquins scientifiques, etc.
Mais je crois que pendant des siècles et des siècles, l'Église a capitulé un peu là-dessus, en disant que pour aller au paradis, il fallait croire.
Oui.
Ce qui est complètement faux, en fait. Il ne s'agit pas de croire, il s'agit de rien. Il s'agit de s'ouvrir à quelque chose d'autre.
Oui, oui, c'est sûr.
et de recevoir un cadeau.
Oui. Ce qui n'est pas du tout la même chose.
Ce n'est pas la même chose.
Tout à fait.
Y a quelque chose de l'ordre de la liberté là-dedans.
Oui,
et
du
en
choix.
Même temps, et du choix, justement. Et de la responsabilité. Je dirais que pour moi, Dieu, il touche tout le monde. mais chacun y répond différemment.
Tout à fait.
C'est tout.
Oui, oui.
Par exemple, voilà, le bon larron, il voit en Jésus un roi, tout d'un coup, là, comme ça. Le mauvais, il voit qu'un échec. Ouais. Le centurion, il voit la justice. Et les chefs religieux, ils voient un blasphème. C'est, en fait, le Christ, là, sur la croix, il n'a pas bougé hein, pendant que tout le monde se disait ça.
Non, c'est
et
sûr.
Il a été le même pour tous. Il n'y a que la réaction qui change. Et en fait, pour nous, aujourd'hui, je dirais que c'est exactement la même chose, en fait.
Hein. Oui.
Et je pense que la vie éternelle, elle est pour tout le monde. On ira tous au paradis. Mais avec cette capacité à recevoir ce cadeau. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire à reconnaître le Christ quand même.
À reconnaître,
parce que quand
oui.
il dit « je suis la porte
oui. »,
donc on passe par cette porte
ouais.
ou pas.
Ouais.
Et on peut choisir de ne pas passer par cette porte.
On peut choisir de ne pas passer par cette
voilà.
porte.
Et donc, à ce moment-là, ne pas regretter un paradis auquel finalement on ouais. ne croit pas et qui n'a pas de sens.
Mais pour moi, le paradis ne nie pas la mort. Et d'ailleurs, oui. Jésus meurt.
Oui, bien sûr. Oui. Bon, il ne t'aura pas échappé qu'il est ressuscité trois jours après.
Il
quand
est
même.
Ressuscité trois jours après. Mais il y a cette... Pour nous, parce que nous aussi, on va mourir. On est tous appelés à mourir. Mais aujourd'hui, il y a cet aujourd'hui qui est là tous les jours, en fait.
Oui.
Cet aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui
ouais.
Est-ce que est-ce que je choisis de m'ouvrir à quelque chose d'autre
oui.
ou pas ?
Est-ce que je choisis la vie ?
Est-ce que je choisis la vie ?
Oui, voilà.
Mais
encore
c'est un
une
peu
fois,
ça.
On y revient, tout
on
à
y
fait.
Revient.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que l'éternité, c'est du déjà là.
C'est du déjà là.
Et, oui.
et complètement déjà là.
Oui.
Et toujours déjà là. Parce que la grâce nous précède.
Oui.
Et qu'on n'a rien à faire pour mériter quoi que ce soit.
Oui. C'est quand même très apaisant, je trouve, dans un certain sens. Même si, à fois, peut être un combat, hein, quelquefois.
Oui. L'un n'empêche pas l'autre.
Oui, non. Non.
L'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà,
ouais.
on peut... Oui. C'est une question de une question d'ouverture. Alors, j'avais trouvé un texte, peut-être que... de Lewis.
Mm-hmm.
Qui dit « Tout désir réel correspond à une réalité. Nous avons faim parce qu'il existe de la nourriture. » Nous avons soif parce qu'il existe de l'eau. Nous désirons l'éternité parce que nous sommes faits pour elle.
Il est magnifique ce texte.
C'est magnifique.
Il est absolument magnifique.
Voilà.
Tout à fait. Parce que où sont les disciples ?
Ah ben, ils ne sont pas là.
Oui. Il y a quelques femmes, il y a quelques...
Il y a les femmes.
Voilà. On n'est pas sûr qu'il y ait sa mère, d'ailleurs. Je pense que ça n'est pas dit, alors que c'est représenté dans toutes les iconographies.
Ouais.
C'est assez étonnant, ça. Donc, est-ce que les disciples, eux, cette vie éternelle, finalement, ils ont tellement vécu la vie avec le Christ que penser à quelque chose qui est de l'ordre de l'ineffable, l'indicible, l'invisible, n'est pas possible, en fait.
C'est... Bah, en fait, les disciples ont peur, là. Ils sont,
parce
ils
qu'ils nous représentent, ils nous représentent d'une certaine façon. Quoi. Voilà,
ouais,
hein, on est, même des siècles après, on est...
Les disciples ont peur, ils ont peur de la mort, ils ont peur d'être associés à un condamné, ils ont certainement peur d'avoir espéré en vain.
Oui.
Et c'est pour eux, c'est un effondrement intérieur
oui,
total.
Oui, on peut imaginer.
Ouais.
On peut imaginer.
Mais ils comprendront plus tard.
Oui.
Mais comme nous.
Oui, mais c'est vrai qu'il a fallu passer de l'arrivée imminente de la parousie, du royaume, etc., à « ah ben non, c'est pour plus tard ».
Ouais, ouais.
Circuler, il n'y a rien à voir.
C'est ça.
C'est assez difficile à entendre quand même, et l'espérance. Mais ce qui me bluffe toujours, c'est que cette espérance, elle est toujours là. Il y a quand même encore... On est nombreux à la ressentir. Donc, il s'est passé quelque chose, enfin.
Oui, oui, oui. Et puis, dans l'évangile de Jean, Jésus dit... Je suis la résurrection et la vie.
Et la vie.
Il n'a pas dit je donne la résurrection.
Oui.
Il n'a pas dit je promets la résurrection.
Oui. C'est moi qui suis la résurrection et la vie.
Je suis là maintenant. Je suis la résurrection.
Celui qui
et la
croit
vie.
En moi vivra, même s'il meurt.
Ouais. Ça veut dire que la vie éternelle, finalement, c'est pas un état.
Non.
C'est une présence.
Voilà.
Et cette présence, comme elle vit en nous, ben elle peut pas mourir avec notre corps.
Oui.
À la croix, ceux qui restent auprès de Jésus sont déjà dans la vie éternelle parce qu'ils restent dans la communion.
Oui.
En fait. C'est un peu ce que... Ouais, ce que...
C'est ta conclusion, que... en fait, c'est ce que ouais,
ça serait ma conclusion,
répondre, bien
c'est ce,
sûr.
Que je pourrais, ouais. ce que je pourrais dire. Après, c'est peut-être... Il y a peut-être encore plein de questions autour de ça. Il y en aura toujours. Hein.
Oui.
Et on n'a pas les réponses, parce que personne n'est mort pour... est revenu à part Jésus.
Oui, voilà.
Donc
c'est
dur.
Oui, oui.
C'est dur.
Bien
mais
sûr.
Mais
oui.
si on s'en tient à ce que nous racontent les évangiles, voilà, la vie éternelle, elle est là, maintenant. Elle commence là, maintenant.
Voilà, elle est déjà là.
Elle est déjà là.
Formidable. Quelle bonne nouvelle, hein, à tous les sens du terme. Merci beaucoup, Ingrid. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter en podcast. Et bien, au mois prochain.
Au mois prochain.
C'était La Bible Parfum de Scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.